France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Monique, Xavier Atto, Antoine Giraud et Olivier Dehay. Voici la quatrième émission de notre série consacrée à Eugène Ormandy à la tête de l'orchestre de Philadelphie. Et nous abordons aujourd'hui les années 1970 qui vont nous permettre d'entendre des pianistes comme Von Cliburn ou encore Arthur Rubinstein. Ici interprète le 2 juin 1969 des Nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla.
Thank you.
C'est un grand amoureux de l'Espagne qui jouait là, le Polonais Artur Rubinstein, interprète de ces nuits dans les jardins d'Espagne. Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla. Nous écoutions le mouvement final Jardin de la Sierra de Córdoba avec l'orchestre de Philadelphie dirigé en 1969 par Eugène Ormandy. Et les amoureux du piano seront contents puisqu'ils vont encore écouter du piano maintenant avec un pianiste américain qui a fait sensation pendant la guerre froide. Il s'agit de Van Cliburn, qui était né en Louisiane en 1934 et qui donc avait 24 ans en 1958 lorsqu'il s'était rendu en URSS pour participer au premier concours international Tchaïkovski, événement mondial et politique, un concours soviétique remporté par un Américain, ce qui avait valu le triomphe bien sûr à Van Cliburn à son retour chez lui aux États-Unis et une carrière internationale extraordinaire et la formation également d'un autre concours, le concours international de piano Van Cliburn organisé à Fort Worth au Texas. Van Cliburn, le voici dans le deuxième concerto pour piano de Franz Liszt, en tout cas la fin de cette partition telle que l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy l'avait enregistrée le 7 mai 1970 pour RCA.
Thank you.
Le final du deuxième concerto en la majeur de Franz Liszt par le pianiste Van Cliburn avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'avais évoqué lors d'une des précédentes émissions la tournée de cet orchestre avec Eugène Ormandy en URSS en 1958, l'année de la victoire de Van Cliburn au concours Tchaïkovski de Moscou. Eh bien, un an après la visite de Richard Nixon en Chine en 1972, cette visite qui allait inspirer l'opéra Nixon in China de John Adams, donc en 1973, l'orchestre de Philadelphie dirigé par Ormandy sera le premier orchestre américain à se produire en République populaire de Chine. Et c'est Nixon en personne qui avait téléphoné à Ormandy pour le prévenir. Nixon était un grand fan d'Ormandy et de l'orchestre, sachant que c'est le premier ministre Zhou Enlai qui avait officiellement pris la décision d'inviter parmi tous ces orchestres américains l'orchestre de Philadelphie. Alors certes, l'orchestre philharmonique de Londres et l'orchestre philharmonique de Vienne étaient déjà venus en Chine, mais l'arrivée du Philadelphia Orchestra à Pékin a vraiment été un événement musical et surtout politique. De cette époque date un enregistrement musique française que nous allons savourer ensemble, c'est la célébrissime Danse macabre de Camille Saint-Saëns. après avoir descendu sa corde aiguë d'un demi-ton, comme Camille Saint-Saëns le demandait. C'est le violon solo Norman Carroll qui interprétait la partie macabre de cette danse de Camille Saint-Saëns avec l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. 1972, je le disais, le président Nixon, fan d'Ormandy et de Philadelphie, serre donc la main à Mao Tse-tung et au même moment, 1972, cet orchestre et son chef assurent la création américaine de la 15e et dernière symphonie de Dmitri Shostakovich. Mardi dernier, à l'issue de la deuxième émission de cette série, nous écoutions comment Mstislav Rostropovitch avait enregistré à Philadelphie le premier concerto pour violoncelle de Shostakovich en présence du compositeur, avec une permission exceptionnelle de sortie du territoire soviétique. Eh bien, Shostakovich est resté longtemps à l'affiche de l'orchestre. D'ailleurs, il n'a pas quitté le répertoire de l'orchestre Shostakovich, mais Ormandy a été un ardent défenseur de cette musique, comme en témoignent ses enregistrements, et notamment cet enregistrement de la 15e symphonie, dont il a donc assuré la création américaine, partition en la majeure dans laquelle Shostakovich cite d'autres compositeurs comme Wagner, Glinka, Gustav Mahler, et surtout l'ouverture du Guillaume Tell de Rossini.
Thank you.
Allegretto, le, non pas le titre de l'émission de Denisa Kershova tous les matins sur France Musique, mais le premier mouvement de la 15e symphonie en La majeur, opus 141 de Dmitri Shostakovich, par l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy en 1972, année de la création américaine de cette partition. Alors évidemment, je le disais et je le répète, c'est essentiellement le répertoire européen qui est joué par ces orchestres américains, mais les compositeurs américains sont présents dans les concerts et les enregistrements de cet orchestre de Philadelphie avec Giancarlo Menotti, Samuel Barber, George Gershwin, Eric Copland, Roy Harris, William Schumann ou encore Charles Ives, le père de la modernité américaine qui, au début du XXe siècle, révolutionnait l'histoire de la musique de son pays en toute discrétion. Les partitions de Charles Ives ne seront révélées qu'au milieu des années 50, avec notamment Leonard Bernstein à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York. Ce sera le cas des symphonies de Ives. La deuxième symphonie date de 1897-1902 et Eugène Ormandy l'a enregistrée en 1973 dans une technique de multiphonie qui était révolutionnaire à l'époque. L'Orchestre de Philadelphie rend hommage à un enfant du pays, l'Adagio Cantabile de cette deuxième symphonie de Charles Ives. Arrive sur France Musique. C'est au milieu des 5 mouvements de sa deuxième symphonie que Charles Ives, au tournant des 19e et 20e siècles, avait ainsi posé ce délicat Adagio Cantabile qui cite quelques mélodies populaires américaines, ici interprétées par l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et nous en arrivons à une des pages les plus populaires de l'histoire de la musique, une page pour les 7 à 77 ans et même encore moins de 7 et encore plus que 77 puisque c'est Pierre et le Loup de Serge Prokofiev que nous allons écouter intégralement avec cet orchestre et ce chef. Alors il y a deux versions dans la discographie d'Ormandy avec le Philadelphia Orchestra. La première version date de 1957 avec comme narrateur Cyril Richard, un acteur australien bien oublié aujourd'hui et dont l'un des faits de gloire était d'avoir incarné le capitaine Crochet dans la comédie musicale Peter Pan en 1954. Alors les producteurs de la maison de disques CBS puis RCA se sont dit tiens, comment faire vendre un peu plus de disques avec peut-être une star internationale, et c'est alors qu'ils ont pensé à David Bowie, et oui, le chanteur Ziggy Stardust qui est ici récitant de ce Pierre et le Loup qu'il avait réalisé pour son fils de 4 ans Duncan Zoe Jones, qui est aujourd'hui un réalisateur de films de science-fiction. La voici sur France Musique, en anglais dans le texte, même si on ne comprend pas l'anglais, on connaît par cœur l'histoire de Pierre et le Loup, Peter and the Wolf, par l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy le 8 octobre 1975, et la voix de Monsieur David Bowie.
This is the story of Peter and the Wolf. Each character in this tale is going to be represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird will be played by the flute, like this. Here's the duck, played by the oboe. The cat by the clarinet. The bassoon will represent grandfather. French horns. And Peter by the strings. Blast of the hunter's shotguns, played by the kettle drums. Are you sitting comfortably? Then I shall begin. Early one morning, Peter opened the gate and went out into the big green meadow. Thank you. On a branch of a big tree sat a little bird, Peter's friend.
All is quiet, all is quiet,
chirped the bird gaily. Yes, all is quiet. Just then, a duck came waddling round. She was glad that Peter hadn't closed the gate and decided to take a nice swim in the deep pond in the meadow. Seeing the duck, the little bird flew down upon the grass, settled next to her, and shrugged his shoulders.
What kind of bird are you if you can't fly?
Said he. To this the duck replied,
What kind of bird are you if you can't swim?
And dived into the pond. They argued and argued, the duck swimming in the pond and the little bird hopping along the shore. Suddenly, something caught Peter's attention. It was a cat crawling through the grass. The cat thought,
The bird is busy arguing. I'll just grab him.
Stealthily, she crept towards him on her velvet paws.
Look out!
Shouted Peter, and the bird immediately flew up into the tree.
Hey! while the duck quacked angrily at the cat. From the middle of the pond. The cat walked round the tree and thought, "Is it worth climbing up so high? By the time I get there, the bird will have flown away." Just then, Grandfather came out. He was angry because Peter had gone into the meadow.
"It's a dangerous place. If a wolf should come out of the forest, then what would you do?"
Peter paid no attention to his grandfather's words. Boys like Peter aren't afraid of wolves. Grandfather took Peter by the hand, locked the gate, and led him home. Sooner had Peter gone than a big, grey wolf came out of the forest. In a twinkling, the cat climbed up into the tree. The duck quacked, and in her excitement, jumped out of the pond. But no matter how hard the duck tried to run, she couldn't escape the wolf. He was getting nearer, nearer, catching up with her. And then he got her, and with one gulp, swallowed her. Now, this is how things stood. The cat was sitting on one branch. The bird on another. Not too close to the cat. And the wolf walked round and round the tree, looking at them with greedy eyes. In the meantime, Peter, without the slightest fear, stood behind the closed gate, watching all that was going on. He ran home, got a strong rope, and climbed up the high stone wall. One of the branches of the tree, around which the wolf was walking, stretched out over the wall. Grabbing hold of the branch, Peter lightly climbed over onto the tree. Peter said to the bird, "Fly down and circle round the wolf's head. Only take care that he doesn't catch you." The bird almost touched the wolf's head with his wings, while the wolf snapped angrily at him from this side and that. Teased the wolf. How that wolf wanted to catch him. But the bird was clever, and the wolf simply couldn't do anything about it.
Meanwhile, Peter made a lasso, and carefully letting it down. And down. And down.
Caught the wolf by the tail, and pulled with all his might. Feeling himself caught, the wolf began to jump wildly, trying to get loose. But Peter tied the other end of the rope to the tree. And the wolf's jumping only made the rope round his tail tighter. Just then, the hunters came out of the woods. Following the wolf's trail and shooting as they went. Peter, sitting in the tree, said, "Don't shoot. Birdie and I have already caught the wolf. Now help us take him to the zoo." Just imagine. Just imagine the triumphant procession. Peter at the head. After him, the hunters leading the wolf. And winding up the procession, Grandfather and the cat. Grandfather shook his head discontentedly.
Well, and if Peter hadn't caught the wolf, what then?
Above them flew Birdie, chirping merrily. My, what brave fellows we are, Peter and I. Look what we have caught. If one would listen very carefully, he could hear the duck quacking inside the wolf, because the wolf, in his hurry, had swallowed her alive.
David Bowie narrates Prokofiev's Peter and the Wolf. Voilà le titre de cet album. C'est en décembre 1977 que David Bowie s'était rendu dans un studio de New York pour enregistrer les textes de Pierre et le Loup de Prokofiev sur un enregistrement réalisé 2 ans auparavant par l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. Le 33 tours au micro sillon de couleur verte était sorti en 1978 et avait atteint la 136e place dans les charts américain. La firme RCA d'ailleurs avait demandé tout d'abord à Alec Guinness et à Peter Ustinov qui avaient refusé, David Bowie étant le 3e choix, mais un choix qu'on apprécie aujourd'hui, 3-4 ans après la mort du chanteur londonien. Alors justement, sur France Musique, nous allons rester avec cet accent britannique délicieux, accent londonien, avec le compositeur Gustav Holst et ses célèbres Planètes que l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy avait enregistré en décembre 1975. Voici Uranus le magicien.
Thank you.
Uranus, le magicien extrait des planètes de Gustav Holst par l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy, que nous retrouvons une dernière fois aujourd'hui dans cette année 70 avec le songe d'une nuit d'été de Félix Mendelssohn que le chef et l'orchestre avaient enregistré avec le chœur du Mendelssohn Club de Philadelphie et les solistes Judith Blegen et Frederica von Stade qui chantaient ce duo d'effets originellement dans le texte de Shakespeare, c'est la fameuse allitération You spotted snakes with double tongue. Autrement dit, vous, serpents tachetés au double dard, hérissons épineux, ne vous montrez pas, salamandres, orvets, ne soyez pas malfaisants, n'approchez pas de la reine des fées, arrière, arrière. Araignées fileuses ne venaient pas ici. Arrière, faucheux aux longues pattes, arrière, noirs escargots n'approchaient pas. Vers et limaçons ne faites aucun dégât. Arrière, arrière, les deux fées protègent ainsi Titania dans cet extrait du Songe d'été de Félix Mendelssohn avec Judith Blegen, Frederica von Stadel, le chœur du Mendelssohn Club de Philadelphie, l'orchestre de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. Et j'entends qu'il ricane derrière moi.
Oui, c'est les arrières qui font rire.
C'est les arrières qui vont faire rire. Eh bien, en avant, cher Lionel Esparza, c'est à vous.
Merci François-Xavier Chomchak. Audi va dire quand même à nos auditeurs ce qu'il y aura demain. C'est Ormandy, clap de fin.
Voilà, hein. Dernière partie avec les jeunes solistes de l'époque, les Yitzhak Perlman, Emmanuel Axe et autres, Yo-Yo Ma.
À demain donc.
À réécouter sur francemusique.fr.